Francis Wolff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philo à l'École normale supérieure, auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment Notre humanité, sorti en 2010, et Trois humanités contemporaines en 2017. Vous allez faire demain une conférence dans le cadre des rencontres Paul Ricoeur, L'homme, ni Dieu, ni bête, à 11h. Vous vous placez donc contre ce que vous appelez deux utopies, l'utopie transhumaniste d'une part, qui ferait de l'humain un être surhumain, et l'utopie antispéciste d'autre part, qui entend faire de l'humain un animal comme les autres. Cette semaine se tient à Rennes justement, la semaine de la pensée antispéciste. Je vous propose donc qu'on s'intéresse d'abord à cette dernière utopie, cette pensée. Contre la thèse antispéciste, vous soutenez qu'il y a une spécificité humaine qui le distingue du reste du monde animal. Pourtant d'un point de vue biologique, l'homme est un animal, et selon les éthologues, tout ce qui semble faire notre humanité, langage, culture, technique, est selon eux partagé en quelque sorte par le monde animal. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à cela ?
Premièrement, il faut signaler que le mouvement antispéciste auquel je m'intéresse depuis pratiquement sa naissance est un mouvement qui se présente sous des allures extrêmement généreuses et qui a pour objet d'élargir notre communauté morale à tous les êtres souffrants. Comment ne pourrait-on pas souscrire à un tel programme ? Il est vrai aussi que, comme je l'ai montré dans Notre humanité, d'Aristote aux neurosciences, depuis environ le tournant du siècle, le regard que nous portons sur les animaux a changé. Alors, bien entendu, c'est quelque chose que nous savons depuis au moins Darwin, l'évolution des espèces. L'homme est évidemment un animal, il est le fruit de l'évolution des espèces, et comme tous les autres animaux, il est aussi le fruit de l'adaptation à son milieu. Je fais cependant une réserve, quand je dis son milieu, c'est le seul primate, l'homme, qui a pu s'adapter à tous les milieux de la Terre et qui s'est adapté à tous les écosystèmes, alors que ses plus proches cousins, comme on dit, les chimpanzés, sont toujours restés prisonniers, si je puis dire, de leur environnement ou de leur milieu sylvestre. Mais ceci n'est pas important, car la révolution darwinienne est acquise depuis très longtemps et le point de vue antispéciste est un point de vue relativement récent. Il y a d'autre part ce que vous avez dit concernant l'éthologie. Alors, deux remarques. L'éthologie est une science qui est née au XXe siècle, à laquelle je me suis beaucoup intéressé. Et il faut signaler qu'il n'y a pas eu de découverte éthologique récente qui ait remise en question la distinction ou la spécificité de l'être humain. Ce qui s'est passé, et qui est très important, c'est que le regard porté par les éthologues ou les autres scientifiques, depuis le tournant du siècle environ, le regard porté à la fois sur l'homme et sur l'animal a changé. Pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons, dont certaines sont en effet scientifiques et d'autres ne le sont pas. Parmi les raisons scientifiques, il y a le fait que ce qui a dominé le XXe siècle, en termes de connaissance de l'humain, c'est ce qu'on appelait les sciences humaines, et notamment un modèle structuraliste élargi dans lequel, pour comprendre l'homme, il fallait le distinguer, même l'opposer à l'animal, disons aux autres animaux, pour le comprendre. Par exemple, on apprenait par la psychanalyse que l'animal était un être de besoin et l'homme était un être de désir qui avait, lui, des représentations, des fantasmes, du l'appel au symbolique, à l'imaginaire, qui n'avait rien à voir avec la satisfaction immédiate des besoins de l'animal. La linguistique nous apprenait la différence entre les langages animaux. Personne n'a jamais douté que les animaux sociaux, forcément, étaient dotés de systèmes de communication, mais c'était un système de signaux, alors que le langage humain, lui, est infini, il est constitué d'un système de signes, etc. Et ainsi de suite pour toutes les sciences humaines. Ce qui s'est passé plus ou moins au tournant du siècle, et peut-être un petit peu avant, avec ce qu'on a appelé le modèle de l'homme neuronal, c'est une révolution scientifique qui fait que un changement, comme on dit, de paradigme avec le triomphe des neurosciences. Évidemment, sous l'œil des neurosciences, la distinction homme-animal perd une partie de son sens, puisque on va étudier l'homme comme un autre animal. C'est-à-dire, ce qui a changé, c'est évidemment la manière de comprendre l'homme. Soit on le comprend en l'opposant aux autres animaux, soit on le comprend en le réduisant aux autres animaux.
Pourtant, repenser notre place parmi le vivant est quelque chose de sain, peut-être même quelque chose de nécessaire. Et étant donné la crise écologique actuelle, ne plus s'attribuer de supériorité sur le règne animal et donc gagner en humilité, est-ce que ça ne serait pas bénéfique ?
Je crois que c'est extrêmement nocif au contraire. Car si nous pensons que nous sommes une espèce de vivant comme les autres, nous n'avons aucune raison de ne pas nous comporter comme dans la nature, c'est-à-dire une espèce, n'est-ce pas, qui, est en lutte permanente contre les autres espèces. Ce qui fait de nous notre humanité, c'est que nous sommes la seule espèce à pouvoir être écologique, c'est-à-dire à pouvoir veiller à l'équilibre de l'ensemble de la biodiversité, à l'ensemble de la préservation de la biosphère et au fait que la vie humaine sera possible ou non plus tard. C'est notre responsabilité et c'est notre responsabilité en tant qu'humain. Et tant que l'on considérera que l'homme est une espèce de vivant parmi d'autres, nous affaiblirons la responsabilité proprement humaine. J'ajoute quelque chose qui me paraît extrêmement important. Il ne peut pas y avoir, nous ne pouvons pas nous remettre au sein des vivants, puisque la vie, si je puis dire, est au service du maintien d'une espèce au détriment des autres. Quand nous imaginons que la vie et le vivant, c'est une espèce d'immense, magnifique harmonie, c'est que nous la voyons de l'extérieur. Et c'est ceux qui pensent qu'il faut nous réintroduire parmi les vivants ont une vision de la nature complètement anthropocentrique, au contraire de ce qu'ils pensent. Si nous nous replaçons dans les vivants, eh bien nous sommes une espèce comme les autres, c'est-à-dire menacée de mort en permanence par nos prédateurs, etc. Il se trouve en effet que pour des raisons qui toutes ne sont pas défendables, l'homme est devenu progressivement, au fur et à mesure des siècles et des millénaires même, le super prédateur, celui qui est responsable de l'affaiblissement de la biodiversité et de la destruction d'une partie de la biosphère. Ça, c'est en effet vrai. Ça, c'est en effet, je le répète, de notre responsabilité, mais j'ajoute un point. Le problème, par exemple, de la crise climatique n'a rien à voir avec la question du vivant. C'est une question du productivisme moderne. C'est l'espèce de productivisme insensé auquel, et exponentiel auquel le progrès industriel et je veux dire, la progression du capitalisme, en particulier du capitalisme financier, nous a mis aujourd'hui. Et c'est plutôt, si on veut employer des termes utiles pour l'écologie, la question de l'extractivisme, c'est-à-dire de l'épuisement des ressources, la question évidemment des énergies fossiles, c'est ça qui menace le plus l'humanité et par conséquent les êtres espèces vivantes.
On va s'intéresser maintenant à la seconde utopie, le transhumanisme. On va commencer très directement. En quoi cette utopie est-elle différente de la première déjà ?
Elle est différente en ce sens qu'elle est parfaitement symétrique. C'est-à-dire que ce sont, comme j'ai tâché de le montrer dans ce livre qui s'appelle « Trois utopies contemporaines », elle a ceci de particulier, c'est qu'elles sont nées à peu près en même temps et pour des raisons qui sont en partie les mêmes, c'est-à-dire l'affaiblissement ou la fragilisation de la conscience de l'humanité par elle-même, c'est-à-dire ce qu'on a pu appeler, pour des raisons discutables d'ailleurs, l'épuisement de l'humanisme. Et dans un cas comme dans l'autre, de façon symétrique, n'est-ce pas, il s'agissait de remettre en question les limites classiques de l'humanisme en disant, on a défini l'homme par un certain nombre de propriétés ou de qualités. Les antispécistes disent « mais il n'y a pas de propre de l'homme ». On n'a pas traité ce point-là, mais c'est un point qui m'est cher. Il y a en effet une spécificité humaine dont nous n'avons pas eu encore le temps de parler. Et les post-humanistes ou les transhumanistes disaient « il y a des caractéristiques humaines, mais rien n'empêche qu'on les dépasse, qu'on améliore l'humain ». Donc, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des idéologies ou des utopies parfaitement généreuse au départ, mais qui remettent en question les limites de l'humain. Alors le dernier point qui est en commun, mais en fait opposé, parce que très honnêtement, il faut bien dire que c'est souvent opposé politiquement. Les transhumanistes ou les post-humanistes sont souvent, notamment aux États-Unis, mais aussi souvent en Europe, liés à ce qu'on appelle une espèce de droite ultra-libérale, c'est-à-dire à une idéologie libertarienne dans laquelle on veut offrir aux individus en tant que tels les meilleures destinées possibles. Alors que, évidemment, l'antispécisme est plutôt une théorie portée aujourd'hui par la gauche ou l'extrême gauche, etc., qui a hérité des concepts traditionnels de l'émancipation ou de la révolution et qui l'applique maintenant aux animaux qui apparaissent comme les dernières victimes. Donc il y a évidemment cette opposition. Mais là où je vois la symétrie, c'est dans la notion de limite. Comme j'ai la coutume de dire, traditionnellement, l'être humain était défini par une limite supérieure et une limite inférieure. Limite supérieure vis-à-vis des dieux au-dessus de lui et limite inférieure vis-à-vis des bêtes en dessous de lui. Et ce qu'il avait en commun avec les dieux l'opposait aux animaux, et ce qu'il avait en commun avec les animaux l'opposait aux dieux. Ce qu'il avait en commun avec les dieux, c'était une rationalité, un langage, une rationalité qu'il opposait aux animaux, et ce qu'il opposait aux dieux, c'était quelque chose qu'il avait en commun avec les animaux, qui était la mortalité. Eh bien, l'antispécisme veut faire sauter cette deuxième barrière, alors que le transhumanisme veut faire sauter la première barrière. Et il s'appuie l'un comme l'autre sur quelque chose comme l'évidence, qui apparaît comme évidence. Vous avez cité au départ le darwinisme, et le darwinisme date du milieu du 19e siècle, mais en tout cas un regain d'intérêt pour les thèses évolutionnistes qui viennent, je l'ai dit, des neurosciences, et d'un autre côté, le progrès technique qui, lui aussi, marqué par le progrès de la numérisation, le progrès du progrès du côté des cyborgs, ou du côté de la robotisation, etc. Bref, dans un cas comme dans l'autre, on s'appuie sur un certain nombre de progrès récents, qu'ils soient scientifiques ou techniques, pour remettre en question les limites.
On a l'impression, à vous entendre, d'être presque coincé entre ces deux utopies au final. Existe-t-il, selon vous, une solution intermédiaire, une autre utopie, ou en tout cas une autre solution quelconque pour l'humanité ?
Alors, oui, en effet, j'ai cité trois utopies contemporaines, et j'ai montré que les deux qui se font face, en dépit de leur opposition, fragilisent l'humanité et l'humanisme, et quelle peut être l'utopie humaniste. C'est une utopie pour laquelle je me bats, pour laquelle la jeunesse, il y a peu de temps, se battait, et pour laquelle j'ai l'impression qu'on a un peu abandonné cette lutte. C'est ce que j'appelle l'utopie cosmopolitique, c'est-à-dire le fait que si nous croyons qu'il y a véritablement une unité de l'espèce humaine, plus et d'abord et avant tout, plus qu'une unité des vivants ou une unité du règne animal, que ne nous battons-nous pas pour faire sauter les barrières, je ne dis pas immédiatement les frontières politiques, parce que ça ne s'abolit pas du jour au lendemain, pour que nous ayons conscience que la crise écologique, par exemple, ce n'est pas tellement un problème d'être ou non vivant, c'est premièrement, je l'ai dit, un problème d'énergie fossile, mais c'est secondement, moralement, un problème d'inéquité à l'intérieur de la planète et à l'intérieur de l'humanité. C'est-à-dire que nous faisons payer, aujourd'hui avec la crise climatique, nous faisons payer les populations du Sud par les excès qui sont les nôtres dans le Nord. Et si, à mon avis, si je me sens profondément impliqués dans les luttes écologistes, c'est précisément parce que je pense que c'est avant tout une lutte pour l'équité à l'échelle d'abord de l'humanité telle qu'elle est. Le Nord doit au Sud, puisque le Nord, c'est le Nord qui porte la responsabilité du point où nous en sommes, et c'est le Sud qui le paye, et c'est nos générations qui aujourd'hui sont responsables de ce qui se passera pour la prochaine et les prochaines générations. Donc, je ne vois pas d'autre utopie positive, étant donné les crises que nous traversons, si ce n'est, évidemment, la conscience par l'humanité de son unité et la conscience... que nous devons former quelque chose comme, c'est une utopie bien entendu, faire de nous avant tout des citoyens du monde cosmopolite.
Et bien on va vous laisser sur cette belle utopie cosmopolite. Au revoir Francis Wolff, merci.